Amis auditeurs, bienvenue à vous tous pour notre émission La sainteté au quotidien, vivre le carême avec la parole de Dieu, avec les 10 paroles, les 10 commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Un seul Dieu tu adoreras. Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu à faux. Observe le jour du sabbat pour le sanctifier. Honore ton père et ta mère. Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne désireras rien de ce qui est à ton prochain. Tu adoreras un seul Dieu, premier commandement. Nous en avons déjà parlé. Nous avons vu que ce premier commandement commande d'abord par une présentation que Dieu fait de lui-même en disant « Je suis celui qui t'est libéré, celui qui t'est délivré de la maison de servitude, de l'esclavage. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi, écoute Israël. » On peut dire que, comme le disent d'ailleurs les rabbins, le premier commandement c'est avant tout « Écoute Israël, Shema Israël ». D'ailleurs cette prière des 10 commandements, eh bien, elle est résumée pour nos frères juifs par le premier mot qui est Shema Israël, donc c'est la récitation du Shema. C'est en fait les 10 commandements. Alors, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. On avait vu les vertus. C'est à lui seul que tu rendras un culte. On avait parlé de l'adoration, de la prière, du sacrifice. Nous allons parler aussi des promesses et des vœux. En plusieurs circonstances, le chrétien est appelé à faire des promesses à Dieu. Le baptême et la confirmation, le mariage et l'ordination en comportent toujours. Par dévotion si personnelle, bien sûr, le chrétien peut aussi promettre à Dieu tel acte, telle prière, telle aumône, tel pèlerinage, etc. La fidélité aux promesses faites à Dieu, c'est une manifestation du respect dû à la majesté divine et de l'amour envers le Dieu fidèle. Le vœu, c'est-à-dire la promesse délibérée et libre faite à Dieu d'un bien possible et meilleur, doit être accompli au titre de la vertu de religion. Donc le vœu est un acte de dévotion dans lequel le chrétien se voue lui-même à Dieu ou lui promet une œuvre bonne. Par l'accomplissement de ses vœux, il rend donc à Dieu ce qui lui a été promis et consacré. Les actes des apôtres nous montrent Saint Paul qui est soucieux justement d'accomplir les vœux qu'il a faits. Et c'est donc un extrait du catéchisme de l'Église catholique. Et je vais justement vous parler de ce passage de Saint Paul. C'est dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 18 et le verset d'ailleurs 18 également qui dit « Paul resta encore un certain temps à Corinthe, puis il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie et Priscille et Aquilas l'accompagnaient. Il s'était fait tondre la tête à Sanchré à cause d'un vœu qu'il avait fait. » Alors, une des obligations de celui qu'on appelait le nazir, le prophète, était de ne pas se faire tondre pendant la durée du vœu. Donc il avait dû faire un vœu et il s'était fait tondre la tête à Sanchré à cause du vœu qu'il avait fait. Donc voilà, donc déjà le premier point. Un peu plus loin au verset 21, on entend donc « Mais en prenant congé d'eux, il leur dit « Je reviendrai chez vous une autre fois s'il plaît à Dieu » et il partit d'Éphèse. Je prends ensuite au chapitre 21, les versets 23 et 24. Les versets 23 et 24 des Actes des Apôtres. Faites donc ce que nous allons te dire. Fais donc ce que nous allons te dire. Nous avons ici quatre hommes qui sont tenus par un vœu. Donc vous voyez, il y a donc ces vœux qui sont une manifestation aussi du respect dû à la majesté divine et à l'amour envers le Dieu fidèle. L'Église d'ailleurs reconnaît une valeur exemplaire au vœu de pratiquer les conseils évangéliques. L'Église Notre Mère, je vous lis un extrait du canon, se réjouit de ce qu'il se trouve dans son sein en grand nombre des hommes et des femmes pour vouloir suivre de plus près et manifester plus clairement l'anéantissement du Sauveur en assumant dans la liberté des fils de Dieu la pauvreté, en renonçant à leur volonté propre, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui se soumettent en matière de perfection, au-delà de ce qu'exige le commandement à une créature humaine à cause de Dieu, afin de se conformer plus pleinement au Christ obéissant. Alors, pour certains cas, l'Église peut aussi, pour des raisons vraiment proportionnées, dispenser des vœux et des promesses. Alors, toujours en lien avec « Tu adoreras un seul Dieu », on va parler du devoir social de religion, du droit à la liberté religieuse. Tous les hommes sont tenus de chercher la vérité, surtout en ce qui concerne Dieu et son Église, et quand ils l'ont connue, eh bien de l'embrasser et de lui être fidèles. Ce devoir découle de la nature même des hommes. Il ne contredit pas un respect sincère pour les diverses religions qui apportent souvent un rayon de la vérité qui illumine tous les hommes. Ni l'exigence de la charité qui presse les chrétiens d'agir avec amour, prudence, patience envers ceux qui se trouvent dans l'erreur ou même dans l'ignorance de la foi. Donc, ça c'est la recherche de la vérité et donc du droit aussi à cette recherche, donc du droit aussi à la religion, à la liberté religieuse, parce que le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. Si on resitue le passage de l'Exode, quand Moïse va parler à Pharaon, il lui dit « Laisse mon peuple partir pour rendre un culte à notre Dieu dans le désert. » Pour rendre un culte, la raison pour laquelle Moïse demande à Pharaon de laisser partir son peuple, c'est pour rendre un culte dans le désert. C'est de là, donc, la doctrine catholique traditionnelle sur le devoir moral des hommes et des sociétés à l'égard de la vraie religion de l'unique Église du Christ. C'est-à-dire, en évangélisant sans cesse les hommes, l'Église travaille à ce qu'ils puissent pénétrer d'esprit chrétien les mentalités, les mœurs, les lois et les structures de la communauté où ils vivent. Le devoir social des chrétiens est donc de respecter et d'éveiller en chaque homme l'amour du vrai et du bien. Et leur demande aussi de faire connaître le culte de l'unique vraie religion qui subsiste dans l'Église catholique et apostolique. Les chrétiens sont appelés à être la lumière du monde, c'est le Concile Vatican II, Lumen Gentium, et ça reprend bien sûr le passage de l'Évangile où Jésus le dit, vous êtes la lumière du monde. L'Église manifeste ainsi la royauté du Christ sur toute la création, en particulier sur les sociétés humaines. Qu'en matière religieuse, bien sûr, nul ne soit forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché d'agir dans de justes limites, suivant sa conscience, en privé comme en public. Ce droit est fondé sur la nature même de la personne humaine, dont la dignité lui fait adhérer librement à vérité divine, qui transcende l'ordre temporel. C'est pourquoi il persiste même en ceux qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Si vous voulez, pour simplifier, ce premier commandement appelle l'homme à croire en Dieu, à espérer en lui, à l'aimer par-dessus tout. C'est le Seigneur Dieu que tu adoreras, adorer Dieu, le prier, lui offrir le culte qui lui revient, accomplir les promesses et les vœux qu'on lui a faits. Ce sont des actes de la vertu de religion qui relèvent de l'obéissance au premier commandement. Le devoir de rendre à Dieu un culte authentique concerne l'homme individuellement et socialement. Donc l'homme doit pouvoir professer librement la religion en privé et en public. Alors là, on va aborder, toujours concernant ce premier commandement, un thème qui va faire grincer des dents, je le sais. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Le premier commandement nous interdit d'honorer d'autres dieux que l'unique Seigneur qui s'est révélé à son peuple. Donc il proscrit la superstition et ce qu'on va appeler l'irréligion. La superstition représente en quelque sorte un excès pervers de religion. Et l'irréligion, I-2-R-E-L-I-G-I-O-N, est un vice qui est opposé par défaut à la vertu de religion. On va le voir un peu mieux. Alors, la superstition, on y est. La superstition, c'est la déviation du sentiment religieux et des pratiques qu'il impose. Elle peut affecter aussi le culte que nous rendons au vrai Dieu, par exemple, lorsqu'on attribue une importance en quelque sorte magique à certaines pratiques, par ailleurs légitimes ou nécessaires. Attachée à la seule matérialité des prières ou des signes sacramentels, leur efficacité, en dehors des dispositions intérieures qui les existent, est tombée dans la superstition. C'est-à-dire, on attache beaucoup plus d'importance finalement à faire, admettons, une neuvaine, que c'est une très bonne chose en soi, mais qui doit nous porter à Dieu, mais nous la faisons pour obtenir quelque chose. Et voyez, par exemple, je vais vous dire, parfois nous sommes inondés de fameuses chaînes de prières. Vous savez, alors, tu fais circuler cette prière, et quand vous lisez la prière, elle est en somme toute, elle est très respectable, mais tu fais circuler cette prière à 10 personnes dans les 5 heures qui viennent, et tu auras dès demain une bonne nouvelle qui t'attend, etc. Ceci, c'est de la superstition, c'est une déviation du sentiment religieux. C'est rentrer dans une espèce de commerce pour obtenir, et en fait on attribue le pouvoir magique à cette chaîne, c'est-à-dire c'est en faisant cette chaîne, c'est comme une opération abracadabra, et on obtient ce qu'on veut. Donc ça, c'est complètement contre la vertu de religion, contre le premier commandement. C'est une attitude superstitieuse en soi. Donc on en reçoit beaucoup. Oui, mais alors si je ne le fais pas, j'en reçois même par SMS, me direz-vous. Et si je ne le fais pas, eh bien, il va m'arriver malheur. Ah, superstition, mes amis, pas du tout. Ce procédé ne peut en aucun cas influer quoi que ce soit. C'est pas parce que tu le fais que tu auras une bonne nouvelle, et c'est pas parce que tu le fais pas que tu n'auras pas de bonne nouvelle ou que tu auras au contraire un malheur. Ça s'appelle de la superstition. Passer sous une échelle, un chat noir, etc. Donc on peut d'ailleurs, si un jour il faudrait le faire, parce que c'est très intéressant, on peut remonter à l'origine même de ces signes un peu superstitieux, le sel, etc. On va bien voir qu'il y a effectivement un sens. C'est évident que passer sous une échelle, ça peut être très dangereux. C'est très dangereux sur le moment, parce que si elle n'est pas bien posée, on peut effectivement recevoir, ou même passer sous une échelle, ça suppose aussi qu'on peut recevoir quelque chose qui est en lien avec cette échelle, qui est là donc pour un moment de travail, de travaux, même peut-être sur un mur ou sur quoi que ce soit. Donc on passe pas dessous parce qu'on peut recevoir quelque chose. Donc effectivement, bon, il y a ces histoires d'échelles, on pourrait en revenir, de chat noir, bon, qui est le chat qui représente toujours le malin un petit peu, le mal, voilà. Bon, parenthèse terminée, mais ce serait très intéressant, on pourra consacrer une émission un de ces jours là-dessus, parce que vous allez voir, on peut tout démanteler et voir le vide, la vanité, la vacuité de ces choses-là. Alors, pour la superstition, on pourrait en dire encore plein. Donc faites attention, ne nous laissons pas conditionner par des pratiques auxquelles on confère un pouvoir qui n'existe pas. Seul Dieu est tout puissant et il est toute puissance d'amour et de miséricorde. Souvent aussi dans la superstition, entre ce côté de religiosité naturelle qui nous fait percevoir Dieu comme un Dieu méchant, que nous pouvons un petit peu, entre guillemets, amadouer en multipliant certaines pratiques et pour tenter d'avoir ses faveurs. Donc ce n'est pas le Dieu de Jésus-Christ, ce Dieu-là. Ce n'est pas le Dieu ni même d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ce n'est pas le Dieu de l'histoire. Ça, ce sont des dieux qui sont faits à notre image, avec notre mentalité à nous. parce que Dieu est Dieu, il n'est pas un homme, il ne pense pas comme nous et il n'a pas notre faiblesse et nos exigences. Donc voilà que nous prêtons à Dieu de faux sentiments. Lorsqu'il y a la crainte, l'amour parfait, hein, nous dit la parole de Dieu, bannit la crainte. Et il est évident que lorsque en nous se mêle cet esprit, parce que la superstition c'est toujours lié à la peur, à la crainte d'un malheur, et nous ne nous référons pas au Dieu, à notre Dieu, au vrai Dieu, à l'unique. Donc on voit bien que la superstition est vraiment un péché contre c'est vraiment un péché contre Dieu et qui touche le premier commandement. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu ne te feras pas d'idole. Alors, quels sont ces dieux? On va voir dans l'idolâtrie, parce que le premier condamne bien sûr le polythéisme. Il exige de l'homme de ne pas croire en d'autres dieux que le Dieu de la révélation, de ne pas vénérer d'autres divinités que l'unique. Et l'Écriture va le rappeler constamment. Ce rejet des idoles, or et argent, œuvre de mains humaines, et cette parole très belle qu'on trouve dans les psaumes, mais également dans Isaïe, dans Jérémie, dans le livre de Daniel, dans le livre de Baruch, dans le livre de la sagesse. Elles ont une bouche et ne parlent pas, des yeux et ne voient pas. Ces idoles vaines rendent vaines toutes choses. Comme elles seront ceux qui les firent, quiconque met en elles sa foi. Dieu, au contraire, est le Dieu vivant, qui fait vivre et intervient dans l'histoire, qui interagit dans l'histoire des hommes, qui collabore, qui se présente comme celui qui veut sauver l'homme et non pas comme celui qui veut le dominer et le punir pour ses fautes. Donc attention à toute forme d'idolâtrie qui sont liées quand même aussi à la superstition. Ces faux dieux que nous nous fabriquons à notre image. Mais Dieu ne peut pas rentrer dans notre petite tête, il est Dieu, il est incommensurable, il n'a pas de limites. Donc comment pouvons-nous le limiter à ce jeu très, très particulier? Alors vous savez, dans la rigidité naturelle, dès le début, l'homme, bien sûr, ne s'expliquant pas les phénomènes naturels, comme par exemple l'orage, la pluie, certaines choses, la sécheresse, pour arriver à dompter, à comprendre ces différents phénomènes, il s'est créé en quelque sorte des dieux auxquels il attribue un pouvoir qui n'est pas. Et donc ces dieux, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait faire des sacrifices pour pouvoir obtenir certaines faveurs. Mais ce dieu n'est pas le dieu de la révélation. Ce sont des faux dieux, c'est-à-dire ce sont même pas des dieux. Ce sont des idoles, comme dit la parole très juste, qui n'agissent pas. Et souvent, l'homme, après, dans cette espèce de relation perverse, finalement, enfin pervertie de la religion, de la vraie religion, que fait-il? Il s'imagine que si Dieu ne donne pas, c'est parce que nous ne méritons pas. Donc, il y a comme une culpabilité qui se développe, et donc même une dépression, une peur, des craintes qui sont engendrées dans ce genre de relations qui nous font vivre dans l'angoisse. Alors, parlons toujours de l'idolâtrie. Elle ne concerne pas, vous avez bien compris, que les faux cultes du paganisme. C'est une tentation constante dans notre foi parce qu'elle nous pousse à diviniser ce qui n'est pas Dieu. Il y a idolâtrie dès lors que l'homme honore et révère une créature à la place de Dieu, qu'il s'agisse des dieux ou des démons, par exemple même dans le satanisme. Le pouvoir, ça peut être aussi tout ce qui est lié au pouvoir, au plaisir, à l'argent, à la race et aux ancêtres même, à l'État même. Certains font faire une idolâtrie de l'État. Bon, je ne veux pas faire de politique, donc je n'irai pas très loin, mais vous avez bien compris. Mais c'est surtout l'argent. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, dit Jésus, c'est-à-dire Dieu et Mammon, c'était le fameux Dieu de l'argent. Donc de nombreux martyrs sont morts pour ne pas adorer la bête, on peut le lire dans le livre de l'Apocalypse, en refusant même d'en simuler le culte. L'idolâtrie récuse l'unique seigneurie de Dieu, elle est donc incompatible avec la communion divine. C'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. La vie humaine s'unifie dans l'adoration de l'unique, le commandement d'adorer le seul Dieu simplifie l'homme et le sauve d'une dispersion infinie. L'idolâtrie, c'est une perversion du sens religieux inné de l'homme. L'idolâtrie est celui qui rapporte à n'importe quoi plutôt qu'à Dieu son indestructible notion de Dieu. Ça, c'est Origène qui le dit. Donc, c'est très important. Donc, l'idolâtrie, eh bien, on peut faire de notre famille l'idolâtrie. Et puis, on voit bien que ce qui est révélateur, c'est que nous nous appuyons sur des choses qui ne sont pas, qui sont faibles, qui ne peuvent pas nous apporter la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'à un moment donné, ça craque. À un moment donné, cette idolâtrie, elle va virer au vinaigre, si vous me permettez l'expression. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on change. Alors bon, pour un temps, j'ai servi, j'ai fait de la politique une idolâtrie. Parce que la politique, attention, la politique peut être une chose très bonne, elle est même une chose très bonne. Lorsqu'elle est utilisée comme un moyen qui vise à servir, mais lorsqu'on en voue complètement un culte, c'est comme quelqu'un qui fait du travail une idolâtrie. Tout peut devenir une idolâtrie, c'est-à-dire qu'il cherche la vie dans le travail. Et tant et si bien que très souvent, eh bien, tout va être pour le travail. On va même refuser d'avoir une vie sociale, d'avoir une vie familiale pour le travail, pour évoluer dans le travail, etc. Et au bout de quelques années, qu'est-ce qui se passe? Grande crise, grande dépression, parce qu'on a passé toute sa vie à vouer un culte au travail. Et puis arrive une maladie, un événement qui va nous enlever ce qui était, entre guillemets, notre oxygène, et on s'aperçoit qu'on n'a plus du tout, on n'a plus du tout d'avenir, on n'a plus du tout de vie, on n'arrive plus à avoir un sens à notre vie, on rentre dans une profonde et grave dépression, parce que l'idolâtrie nous pousse à la destruction, nous fait mettre notre confiance dans ce qui est fragile et éphémère. Donc ça, c'est toujours en référence au premier commandement, c'est très grave. On pourrait en parler encore de l'idolâtrie. Pendant tout l'Ancien Testament, on va voir que le grave problème d'Israël, c'est dans son cheminement de tomber très souvent dans l'idolâtrie. Et lorsque les prophètes vont venir et vont rappeler au peuple le vrai Dieu, eh bien, ils vont combattre contre l'idolâtrie ambiante. Qui se manifeste bien sûr par les cultes, les faux cultes du paganisme, mais également par tout ce qui va, même la religion peut devenir une idolâtrie lorsque, au lieu d'être le moyen pour être en communion et en relation avec Dieu, lorsque la religion devient complètement le but, l'idole parfaite dans laquelle on va miser toute sa vie. Dans ces pratiques, c'est pour ça qu'aussi très, très, très souvent, même des gens qui ont une certaine pratique, mais qui restent dans cette forme idolâtrique même de la religion, dans cette attitude un petit peu superstitieuse, que va-t-il se passer? Eh bien, dès qu'arrive un événement grave ou un événement sérieux qui remet tout en question, qui va tout redimensionner, eh bien, on perd complètement pied. On s'aperçoit, alors on peut entendre des phrases du genre « Ah ben moi maintenant je ne crois plus, maintenant je suis déçu ». Non, c'est parce que notre foi n'était pas mise dans le vrai Dieu. On a cru en une forme, dans une pratique, mais pas dans le Dieu véritable. On pourrait en parler encore très longtemps. Alors, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que dans notre prochaine émission, on va continuer toujours dans ces formes d'idolâtrie. Une autre forme d'idolâtrie, ça va être la divination et la magie. Et on va parler même de la magie blanche. Alors là, je sais que ça va être sujet à discussion. Ben, on y reviendra donc. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toutes ses forces. Et oui, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. C'est comme cela que Dieu se présente à l'homme. Et c'est aussi ce que dira Jésus. Quand on lui demande que doit-on faire pour avoir la vie éternelle, bien observer les commandements, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, le seul Dieu, et aimer le prochain comme soi-même.